Cette année, à l'Université libre de Bruxelles, les étudiants de première année de Master en information et communication ont exploré le thème des migrations dans le cadre du cours d'études approfondies de questions d'actualité.
Des professeurs, des chercheurs, des représentants politiques, des journalistes, des témoins leur ont proposé différents regards en relevant les enjeux d'une problématique qui ne quitte pas les feux de l'actualité. On l'a encore vu, notamment avec l'opération de régularisation des sans-papiers qui vient de se terminer, et les questions juridiques, mais aussi sociales, qui l'accompagnent.
Un des objectifs du cours, c'était également de tordre le cou à certains lieux communs, dont celui d'un afflux massif de migrants. Les migrations internationales sont par exemple estimées à 3% de la population mondiale, et une partie très minime concerne l'Europe. Des proportions sans commune mesure, avec la focalisation politique et médiatique que la question des migrations suscite.
Un autre objectif a été d'explorer les nouvelles formes de migration, notamment ce qu'on appelle les migrations climatiques. Les défis du réchauffement climatique ont été abondamment rappelés avant et pendant la conférence de Copenhague. Ses conséquences s'annoncent dramatiques pour les populations des pays en développement. Mais elles n'épargnent pas non plus les pays développés, comme l'a montré l'ouragan Katrina aux États-Unis. C'est pour éclairer cette question que nous avons invité François Guemaine, chercheur à Sciences Po à Paris et spécialiste des migrations environnementales.
Excellent pédagogue, il a d'abord cerné l'impact du changement climatique sur les populations avant de parler des réfugiés climatiques et de discuter la qualification même de réfugiés, avec des enjeux plus larges que simplement sémantiques ou juridiques.
Tout en veillant à regarder au-delà de Copenhague, François Guemaine est aussi venu avec des pistes de solutions.
Au travers de cette question, je vais essayer de vous faire percevoir quels sont les gros enjeux qui touchent également à la géopolitique du changement climatique. En d'autres termes, comment le changement climatique aujourd'hui est devenu davantage qu'un seul problème environnemental et comment le changement climatique affecte les relations internationales, l'équilibre entre les différents pays et singulièrement entre le Nord et le Sud. Vous avez peut-être vu ces images, une réunion du Conseil des ministres de l'archipel des Maldives, qui s'est tenue symboliquement sous l'eau. Alors l'idée, ce n'était pas pour prendre des décisions très importantes, je doute qu'il soit parvenu à régler un problème de type BHV sous l'eau. Par contre, ce qui est évident, c'est que le but, c'était de faire un coup médiatique. Et aujourd'hui, la question des réfugiés climatiques symbolise les premiers dégâts humanitaires du changement climatique. Et j'insiste un peu sur ce volet, puisque vous êtes étudiant et étudiante en communication. Une idée importante dans la communication sur le changement climatique, c'était de donner un visage humain aux impacts du changement climatique. Et aujourd'hui, ce sont les réfugiés climatiques qui symbolisent ce visage humain et qui sont censés aussi amener une prise de conscience planétaire par rapport aux enjeux et aux dangers que représente le réchauffement global. Et donc, petit à petit, à force de coups médiatiques largement centré sur des régions aux extrêmes du globe, que ce soit dans les latitudes arctiques ou dans les petits états insulaires, le visage des réfugiés climatiques est aussi devenu celui des dangers du changement climatique. Ça pose évidemment différentes questions, et on le verra dans la suite de l'exposé, notamment quant à la manière dont ces populations elles-mêmes vont pouvoir appréhender les effets du changement climatique et par rapport aux ressources qu'elles vont pouvoir mobiliser pour s'adapter à ces impacts. En d'autres termes, beaucoup craignent aujourd'hui qu'une sorte de victimisation excessive de ces populations ne nuise à leur capacité d'adaptation et ne handicape les ressources qu'elles pourraient mettre en œuvre pour faire face aux impacts du changement climatique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Comment allons-nous procéder? Je vous propose un exposé en 5 parties distinctes. Dans un premier temps, je vais essayer d'examiner avec vous comment la question a émergé à l'agenda médiatique, mais également à l'agenda politique international. On verra notamment que ces migrations environnementales sont un phénomène très ancien, qui a toujours existé, mais qui suscite un intérêt récent. Ensuite, nous aborderons précisément la question des impacts du changement climatique sur les populations. Comment est-ce que le changement climatique va pouvoir amener des populations à se déplacer? Dans un troisième temps, on examinera qui sont ces gens, où vont-ils, de quoi ont-ils besoin? Quand décident-ils de migrer? Quels sont les facteurs qui déterminent leur migration? Puis on passera à la deuxième partie, qui est celle des solutions et celle de la projection dans l'avenir. J'examinerai tout d'abord une série de pistes de solutions qui peuvent être mises en œuvre. Et puis enfin, je ne pourrais pas conclure, évidemment, sans aborder la question du sommet de Copenhague et comment cette question va être traitée dans le cadre des négociations sur le climat. Commençons par dire que la question des migrations environnementales, et vous verrez que parfois j'utilise le terme de migration environnementale, parfois celui de migration climatique, est un phénomène relativement ancien, et même très ancien. À votre avis, que représente la gravure qui est projetée? Je paye une bière à la fin du cours à celui ou celle qui trouve. Une idée? Qui a dit Lisbonne? Bien joué, je vous paye une bière, madame. Cette gravure représente des camps de réfugiés établis en bordure de la ville de Lisbonne après le grand tremblement de terre qui dévasta la ville en 1755. Et donc déjà, au XVIIIe siècle, on connaissait ce phénomène de catastrophe naturelle qui provoquait des déplacements de population. Et quand on analyse la façon dont les camps sont gérés et toute une série de problèmes liés à la reconstruction de la ville, on constate des parallèles tout à fait étonnants entre la situation qui était celle à Lisbonne en 1755 et la situation de Katrina à Nouvelle-Orléans 250 ans plus tard. Les mêmes questions se posent quant à la gestion des camps, les mêmes questions se posent quant à la reconstruction de la ville, les mêmes questions se posent quant à la vulnérabilité des populations, quant au retour des habitants dans la ville. Et donc, ce problème que l'on croit découvrir en 2005 avec Katrina, on l'a en réalité découvert bien plus tôt, 250 ans plus tôt, au Portugal. Et la catastrophe de Lisbonne représente, dans ce domaine, un événement tout à fait majeur et un tournant, puisqu'elle est considérée comme la toute première catastrophe moderne de l'histoire. Avant Lisbonne, les catastrophes étaient provoquées par Dieu. Après Lisbonne, on se rend compte que les catastrophes sont aussi liées à la vulnérabilité des populations, à la façon dont on construit les villes, à la façon dont on organise les secours. Il y a un très bel échange de correspondances, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, entre Voltaire et Leibniz, après le tremblement de terre de Lisbonne, où Voltaire va évacuer Dieu de la question des catastrophes. Ceci nous ramène, après cette parenthèse, pour dire que donc, on connaît ce phénomène de déplacement des populations liées à des catastrophes naturelles. On connaît aussi la question des déplacements de populations liés à des dégradations plus lentes de l'environnement. Quand j'étais petit garçon, on m'apprenait à l'école primaire, au cours d'histoire, ou plutôt de préhistoire, que les hommes préhistoriques, lorsqu'ils avaient épuisé toutes les ressources d'une région, lorsqu'ils avaient chassé tous les animaux, cueilli tous les fruits et pêché tous les poissons, se déplaçaient vers une autre région à la recherche d'un environnement plus favorable. Et le peuplement de l'Europe, au fond, est une migration environnementale, est une migration poussée par des facteurs environnementaux. Ce que les hommes cherchaient, c'était un environnement meilleur. Certains d'entre vous ont peut-être lu ce livre, qui est un grand classique de la littérature américaine. Si vous ne l'avez pas lu, j'espère au moins que vous avez vu le film éponyme de John Ford. Les raisins de la colère, de Steinbeck, raconte l'histoire de la famille Joad. La famille Joad, comme des centaines de milliers d'autres familles d'agriculteurs dans les années 30 aux États-Unis, va devoir quitter les grandes plaines pour la Californie. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent quitter l'Oklahoma pour la Californie? Parce que tout le centre des États-Unis est victime d'un phénomène naturel qu'on appelle le Dust Bowl, c'est-à-dire une grande sécheresse qui s'accompagne d'un grand nuage de poussière et qui appauvrit les sols. Et tous les agriculteurs de l'Oklahoma, de l'Arkansas, du Texas vont devoir émigrer vers la Californie. Ça se passe dans les années 30 et jusqu'à 2005, c'était le plus grand exode interne qu'aient jamais connu les États-Unis. Et donc déjà, dans les années 30, on connaît ce phénomène de déplacement de population poussé à l'exil, poussé sur les routes, à cause de la dégradation des sols et de dégradations plus lentes et progressives de leur environnement. Même si on connaît le phénomène depuis longtemps, et même si l'environnement, on le sait, a toujours été un facteur de migration, l'intérêt pour cette question, intérêt à la fois chez les académiques, chez les politiques et dans la presse, reste récent. Et je l'évalue à peu près au milieu des années 2000. Pourquoi est-ce qu'on commence véritablement à s'intéresser à cette question des migrations environnementales ou des réfugiés environnementaux ou climatiques à partir du milieu des années 2000? Parce que d'une part, on va avoir une plus grande sensibilisation aux impacts du changement climatique. Le milieu des années 2000 est l'époque où on commence à s'intéresser de beaucoup plus près aux grandes conférences des Nations Unies sur le sujet. C'est aussi l'époque du film d'Al Gore. C'est l'époque du rapport de Nicolas Stern sur les conséquences économiques du changement climatique. Et donc, il y a un tournant dans les opinions publiques à partir du milieu des années 2000 en ce qui concerne la prise de conscience des effets du changement climatique. Cette prise de conscience est aussi liée à quelques grandes catastrophes très médiatisées, en particulier le tsunami qui frappe l'Asie du Sud-Est au lendemain de Noël 2004, et puis à l'année d'après, à l'ouragan Katrina qui ravage le golfe du Mexique à la fin du mois d'août 2005. Ces deux grandes catastrophes vont pour la première fois faire apparaître sur tous les écrans de télévision le visage de ces réfugiés de l'environnement, de ces gens chassés de chez eux par des catastrophes naturelles. Ce sont évidemment des catastrophes qui, contrairement aux autres, frappent les opinions, puisque beaucoup de touristes occidentaux sont victimes du tsunami, et puisque Katrina se passe dans un pays industrialisé, et que la catastrophe de Katrina est exceptionnellement couverte par les médias. Ces catastrophes vont aussi provoquer une prise de conscience au sein des organisations humanitaires, et en particulier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Le HCR est donc l'agence des Nations Unies qui est chargée de porter secours et assistance aux réfugiés. L'organisation est créée en 1951 et il n'entre pas dans son mandat de porter secours aux personnes déplacées par des catastrophes naturelles ou par des changements de l'environnement. Et donc normalement, le HCR ne veut pas entendre parler de ces personnes puisqu'elle n'a pas mandat, ni staff, ni budget, ni capacité opérationnelle pour s'occuper d'eux. Le problème, c'est qu'en 2004, le HCR est déjà présent dans la région avec des camps pour venir en aide aux déplacés de la guerre civile dans la province d'Aceh. Et que d'un coup, les humanitaires du HCR voient arriver dans les camps à la fois des personnes déplacées par la guerre civile et des personnes déplacées par le tsunami. Il fait partie de son mandat de s'occuper des premiers, pas des seconds. Il est évidemment très délicat, pour de simples raisons humanitaires, de distinguer entre les bons et les mauvais réfugiés et de dire aux uns « vous pouvez entrer dans les camps, on va vous distribuer aide et nourriture » et de dire aux autres « pas question, vous n'êtes pas déplacés pour les bonnes raisons ». Et donc, confronté à l'urgence de la situation, le HCR n'a d'autre choix que de porter assistance à ceux qui sont déplacés par le tsunami, qui reçoivent le même traitement que ceux qui sont déplacés par la guerre civile. À l'époque, le HCR dit « attention, cette prise en charge que nous avons réalisée est tout à fait exceptionnelle, elle est justifiée par la nature exceptionnelle et la gravité humanitaire de l'événement, et elle n'a pas vocation à se reproduire ». Et donc, le patron du HCR de l'époque, Ruud Lubbers, un ancien Premier ministre néerlandais, fait clairement savoir que cette opération est exceptionnelle. Sauf que l'année suivante, en octobre 2005, un grand tremblement de terre ravage le Cachemire, et qu'une nouvelle fois, le HCR est là, au Pakistan, pour venir en aide aux victimes de la guerre. Et une nouvelle fois, le HCR voit débarquer dans ses camps des victimes de la guerre et des gens qui ont tout perdu à cause du tremblement de terre. Et encore une fois, le HCR dit « c'est bon pour cette fois-ci, on va secourir les victimes du tremblement de terre, mais ça reste exceptionnel ». L'année d'après, rebelote, inondation au Kenya. 2008, cyclone Nargis. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le HCR a officiellement désigné en son sein une personne chargée de réfléchir à la manière dont le HCR devait se positionner par rapport au changement climatique. Et si vous allez sur la page du HCR, vous verrez qu'il y a un onglet spécifique « Changement climatique » qui détaille les opérations du HCR pour les victimes du changement climatique. Et donc, il y a une sorte de petite révolution qui est amenée par ces catastrophes naturelles très médiatisées qui sollicitent des humanitaires. Et donc, il y a un véritable tournant qui se produit au milieu des années 2000, même si le sujet était déjà apparu quelques fois dans les années 70 dans des rapports d'ONG environnementales, puis était apparu une première fois officiellement dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1985. Donc il y avait déjà eu des signes avant-coureurs dans les littératures à la fois au sein des ONG et des Nations Unies, mais c'est vraiment au tournant des années 2000 que la prise de conscience et l'intérêt pour ce sujet devient manifeste. Au cours de la dernière décennie, ce que l'on observe, évidemment, c'est que le continent qui paye le plus lourd tribut aux catastrophes naturelles, c'est l'Asie et en général toute la région de l'océan Indien. Ce n'est pas tellement parce qu'il y a plus de catastrophes naturelles qui touchent l'Asie, mais c'est plutôt parce que les populations y sont plus vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui vivent dans des zones à risque et ces gens sont plus pauvres. Les États-Unis ont un nombre de victimes relativement limité par rapport à l'Asie, alors que si l'on compare, il y a à peu près autant de catastrophes naturelles qui touchent l'Asie du Sud-Est que le continent nord-américain. La différence, c'est que les populations aux États-Unis, au Mexique, au Canada sont moins nombreuses, plus riches et donc moins vulnérables. Alors, une question que j'ai souvent, c'est pourquoi de si gros ronds pour l'Europe ? La réponse, ce sont les vagues de chaleur qui ont frappé la France en 2003 et beaucoup plus durement encore l'Europe centrale et orientale en 2005. Alors, assez rapidement, et je fais ici un petit excursus, mais pour signaler que les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur l'importance à donner au phénomène. Et assez rapidement, dans la recherche, on va voir naître une controverse scientifique entre un courant que j'ai appelé le courant sceptique et un courant que j'ai appelé le courant alarmiste. Le courant sceptique est généralement représenté par des gens qui sont spécialistes de l'étude des migrations et qui vont dire « attention, attention, ne créons pas trop vite une nouvelle catégorie de réfugiés ou une nouvelle catégorie de migrants. Toutes les migrations par nature ont des causes multiples. » Et quelque part, il peut être vain, voire dangereux, d'essayer d'isoler le facteur environnemental d'autres facteurs. Derrière cette posture académique se cache également un agenda politique, et dans ce domaine, je crois relativement peu à la neutralité des chercheurs. L'agenda politique du courant sceptique, c'est de protéger les droits des migrants et des réfugiés. En d'autres termes, n'agitons pas la peur de flux migratoires massifs à l'avenir, n'essayons pas de leur donner une protection particulière, car ça risque de diluer ou de restreindre les droits dont peuvent aujourd'hui se prévaloir les migrants et les réfugiés. En d'autres termes, il dit, si on agite le spectre de migration massive dans les années à venir, on risque de serrer la vis encore davantage et d'aller vers des politiques migratoires encore plus restrictives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les alarmistes, à l'inverse, constituent une autre catégorie de chercheurs, et dans le courant alarmiste, on trouve essentiellement des chercheurs spécialisés sur l'environnement. Et à ces chercheurs se sont rapidement ajoutés la communauté des ONG et les médias. Et ces spécialistes de l'environnement, eux, vont largement utiliser la figure du réfugié pour sensibiliser les opinions publiques et les politiques au danger du changement climatique. Et donc l'agenda politique de ces chercheurs, c'est de sensibiliser le plus généralement possible au danger et à l'impact humanitaire du changement climatique pour que l'on arrive à une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ces deux buts politiques sont louables en eux-mêmes, d'un côté sensibiliser au danger du changement climatique, de l'autre, protéger les droits des migrants et des réfugiés, ils ne sont pas nécessairement compatibles entre eux. Et donc on va assez rapidement voir apparaître d'assez grands débats, parfois assez violents, entre ces deux communautés de chercheurs. Au point qu'aujourd'hui, certaines recherches, et je mentionne celle de Leslie Morinière en particulier, cherchent à essayer d'établir une cartographie du monde de la recherche sur cette question et de dépasser la controverse entre académiques et sceptiques. Et par exemple, dans les travaux de Morinière, elle établit quatre catégories: les humanistes déterminés, les pragmatiques de bonne volonté, les protectionnistes cyniques et les réalistes critiques, pour essayer de définir et d'affiner les postures des chercheurs. Ça devient un peu de la masturbation intellectuelle, mais néanmoins, il est intéressant de bien voir que la communauté des chercheurs n'est pas tout à fait unanime sur ce sujet, même si on sent, ces dernières années et ces derniers mois en particulier, un rapprochement des deux perspectives, et en tout cas, on sent que les deux perspectives ne s'affrontent plus en des termes aussi clairs qu'auparavant. Alors, cet intérêt récent se manifeste aussi par une série de projets de loi et de propositions qui ont été déposées, une déposée au Sénat d'Australie et une autre à la Chambre, ici en Belgique, Mais toute une série de parlements, de conseils, de commissions se sont aujourd'hui saisis de la question, réfléchissent sur la question et font parfois des propositions qui, malheureusement, jusqu'ici, sont toutes restées lettres mortes et sans effet. Nous voici arrivés au terme de la première partie. Alors, je passe à la deuxième partie qui traite de l'impact du changement climatique sur les populations. En d'autres termes, comment est-ce que le changement climatique va se manifester dans la vie des gens et va perturber le fonctionnement des sociétés? C'est sans doute quelque chose que vous savez déjà et je l'espère, mais il est important de dire que le changement climatique ne va pas se manifester uniquement par une augmentation de la température. D'accord ? L'augmentation de température est la mère de tous les impacts. Et en réalité, à partir de cette augmentation de température, il va y avoir toute une série d'autres impacts que je vais décrire dans leur relation avec les populations. J'insiste simplement sur ce point très important. Vous savez que l'objectif avoué des négociations de Copenhague et de celles qui suivront est de limiter l'ampleur du changement climatique à une augmentation de la température moyenne de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Cette augmentation de 2 degrés est une moyenne. Ça veut dire que ça va chauffer beaucoup plus à certains endroits du globe que dans d'autres. On constate même que, par exemple, à l'échelle d'un continent, l'Espagne et le Portugal vont encaisser des augmentations de température beaucoup plus importantes que le reste du continent européen. Si la température monte de 2 degrés en moyenne, on estime qu'elle va monter de 4 ou 5 degrés en Espagne ou au Portugal. Le sud des États-Unis, le nord de l'Afrique seront aussi particulièrement touchés en été, et qu'en hiver, par contre, le réchauffement va particulièrement toucher les latitudes nord, donc les zones polaires, le Canada et la Russie. Donc, vraiment, bien vous sensibiliser au fait que ces 2 degrés, c'est une moyenne qui cache des différences de température très très importantes selon les régions et selon les continents. Alors, cette augmentation de la température va provoquer toute une série d'impacts relativement différents selon les régions. Dans certains cas, ça va être une baisse des précipitations, dans d'autres cas, ça va être une hausse des précipitations. Parfois, on va avoir une intensité accrue des cyclones et des ouragans, des problèmes de manque d'eau, dans quelques rares cas, une amélioration des récoltes agricoles, mais dans la plupart des cas, une diminution des rendements agricoles. Et donc, les impacts du changement climatique ne vont pas être les mêmes partout. On va distinguer en particulier trois types d'impacts qui sont susceptibles de provoquer des déplacements importants de population. La hausse du niveau des mers, les problèmes de sécheresse, de désertification et d'appauvrissement des sols, et enfin, les phénomènes climatiques extrêmes. La hausse du niveau des mers, tout d'abord. On estime que si on a un réchauffement moyen de la température de 2 degrés, ça va nous donner une élévation moyenne du niveau des mers de 1 mètre d'ici la fin du siècle. J'insiste ici sur un point très important et totalement contre-intuitif, c'est que cette hausse du niveau des mers est une moyenne. Ça veut donc dire que l'eau va monter davantage à certains endroits que dans d'autres. Contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on imagine, il n'y a pas de phénomène de vase communicant à l'échelle du globe. Donc les niveaux de tous les océans ne sont pas pareils. Pourquoi ? La hausse du niveau des mers est liée en premier lieu à un phénomène qu'on appelle l'expansion thermique des océans. C'est-à-dire que plus la température de l'eau se réchauffe, plus l'eau devient chaude, plus elle prend de la place. Or, on estime que ce phénomène d'expansion thermique est responsable pour à peu près 2/3 de la hausse du niveau des mers. Et comme je vous l'ai dit, la température ne va pas monter de la même façon partout, les océans ne vont pas se réchauffer de la même façon partout, et donc l'expansion thermique des océans ne sera pas la même partout. Ajoutez à ça un effet de courant marin, et ce sont les deux grandes raisons pour lesquelles le niveau de l'eau ne sera pas le même partout. Un autre facteur qui contribue également, dans une moindre mesure, à la hausse du niveau des eaux, c'est la fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires. Contrairement à une autre idée reçue, la fonte de la banquise ne provoque pas une augmentation du niveau de la mer. D'accord ? Et bien que vous voyez très souvent dans les médias cette image de l'ours polaire à la dérive sur son iceberg, la fonte ne provoque pas de hausse du niveau des mers. C'est comme si vous aviez un glaçon dans un verre d'eau. Quand le glaçon fond, le verre d'eau ne déborde pas. J'insiste sur le fait que cette hausse du niveau des mers d'un mètre en moyenne, c'est le scénario optimiste. Dans une version pessimiste qu'il faut prendre en compte également, si les calottes glaciaires commencent à fondre, et en particulier la calotte polaire du Groenland, qui semble-t-il a déjà commencé à fondre, on peut s'attendre à une augmentation du niveau des mers d'environ 6 à 7 mètres, en moyenne. La calotte polaire antarctique, quant à elle, semble plus ou moins stabilisée pour le moment, mais par contre la calotte polaire arctique est, semble-t-il, en train de fondre. Un autre effet de la hausse du niveau des mers, outre le fait que ça va bien sûr inonder et grignoter des territoires, c'est la contamination des nappes d'eau phréatiques. En d'autres termes, l'eau de mer va s'infiltrer dans des nappes d'eau douce et ses réserves d'eau potable vont devenir impropres à la consommation du fait de l'infiltration d'eau de mer qui est, comme vous le savez, salée. Alors, les régions du monde qui sont les plus concernées par cette hausse du niveau des mers, malheureusement, sont aussi les régions les plus peuplées. C'est-à-dire que ce sont les régions côtières et deltaïques qui, comme vous le savez, ont de tout temps compté parmi les régions les plus peuplées du monde. D'autres régions qui sont touchées, c'est évidemment aussi les petits États insulaires. Alors, sur cette carte, vous voyez que le liseré rouge représente toutes les zones du globe qui seraient sous eau en cas d'élévation du niveau de la mer de 1 mètre. La situation, par exemple, est relativement critique en Indonésie, qui perdrait quand même des territoires très importants. Vous voyez que le delta de l'Amazone, par exemple, serait aussi largement sous eau. Que les grands deltas de l'Asie du Sud-Est, le Gange, le Brahmapoutre, le Mekong ou le Yangtze, seraient également sous eau. Et vous voyez que l'Europe ne serait pas du tout épargnée par le problème, notamment la Scandinavie. On estime que pour chaque centimètre du niveau de la mer qui monte, il y a 1 million de personnes qui risquent d'être déplacées. D'accord ? C'est un risque, c'est si rien n'est fait. Et on verra dans la suite de l'exposé ce qui peut être fait pour éviter ce scénario. Deuxième type d'impact du changement climatique qui est aussi susceptible de provoquer des migrations importantes, c'est la baisse des précipitations et les sécheresses et la dégradation des sols qui va en résulter. Ces sécheresses et dégradation des sols vont évidemment provoquer des pertes agricoles importantes, également des problèmes d'accès à l'eau qu'on appelle le stress hydrique. Les régions les plus touchées seront l'Afrique subsaharienne, l'Asie septentrionale et l'Amérique centrale. Et déjà aujourd'hui, on constate des mouvements de population relativement importants, notamment en Afrique subsaharienne, où les gens quittent les campagnes pour aller s'amonceler dans les villes. Il y a 2 ou 3 jours, je lisais un rapport du HCR, où les agents du HCR dans le nord du Kenya expliquaient que les camps de réfugiés au nord du Kenya étaient désormais pris d'assaut par des agriculteurs qui ne parvenaient plus à cultiver leurs terres et qui devaient se réfugier plus au sud. Le conflit du Darfour, par exemple, est provoqué au départ par une sécheresse qui sévit dans le nord du Soudan, qui déplace des bergers nomades vers le sud, puisque ces bergers nomades ne peuvent plus faire paître leurs bêtes. Et lorsqu'ils arrivent dans le sud, ils se heurtent à des agriculteurs sédentaires qui ne veulent pas partager leurs terres. Vous ajoutez à ça des tensions ethniques qui dataient depuis longtemps. Vous ajoutez à ça un gouvernement corrompu qui arme des milices. Et vous avez le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Alors, l'effet des grandes sécheresses sur les migrations reste néanmoins relativement difficile à prévoir. Et contrairement à ce au quoi on pourrait s'attendre, quand on examine des longues séries statistiques historiques sur l'histoire des migrations, notamment en Afrique, on constate que les flux migratoires ont tendance à diminuer au moment des pires crises de sécheresse. En d'autres termes, c'est pendant les moments où la situation est la plus difficile que les gens ont tendance à migrer le moins. Pour quelles raisons ? Pendant les sécheresses, les ressources, et notamment les ressources économiques des familles, sont tellement diminuées que les ressources qu'il leur reste sont affectées en priorité à la satisfaction des besoins immédiats des familles, donc en d'autres termes, à nourrir les enfants. Et la migration, en réalité, est souvent considérée comme une sorte de luxe qu'on ne peut plus permettre au moment où les ressources sont diminuées. Et donc, c'est uniquement quand on va avoir davantage de ressources, avant ou après la sécheresse, que l'on va pouvoir utiliser la migration comme une sorte de stratégie en prévention des sécheresses futures à venir. Retenez ce point, il est extrêmement important. Les populations les plus pauvres souvent sont incapables de migrer parce qu'elles n'ont plus les ressources pour le faire. Migrer, c'est un processus qui consomme énormément de ressources qui coûtent très cher. Troisième type d'impact du changement climatique susceptible de provoquer des flux migratoires importants, c'est ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes et donc les catastrophes naturelles. Les inondations, les vagues de chaleur, les ouragans, les cyclones, vous voyez au cours des 30 dernières années où sont survenues les catastrophes naturelles. Donc ici, on ne parle plus du nombre de morts, mais on parle du nombre absolu de catastrophes qui ont touché les différents pays. Par nature, ces catastrophes sont difficiles à prévoir. On ne sait pas ni où ni quand elles vont frapper. On sait par contre, et c'est quelque chose que l'on sait depuis Katrina, que ces catastrophes sont susceptibles de provoquer des déplacements de population permanents. Avant Katrina, on pensait que les catastrophes naturelles ne provoquaient que des évacuations temporaires de population, qu'on évacuait les gens pour quelques jours et puis qu'on reconstruisait, qu'on remettait les choses en ordre et que les gens pouvaient revenir. Avec Katrina, on s'est rendu compte que les catastrophes naturelles pouvaient également provoquer des déplacements permanents de population, puisqu'un peu plus du tiers des habitants de la Nouvelle-Orléans ne sont jamais revenus dans leur ville et ne reviendront sans doute jamais. Et donc ça, c'est un des grands enseignements de Katrina, c'est le fait que les catastrophes naturelles pouvaient provoquer des migrations permanentes et pas seulement temporaires. Voici qui clôt la deuxième partie de l'exposé. Et je passe alors à la troisième partie, puisque nous avons maintenant discuté des impacts, essayons de voir à quoi ressemblent ceux qui doivent partir à cause de ces impacts. Et est-ce qu'ils constituent finalement une catégorie à part de migrants qui nécessiterait une assistance et une protection particulière? Au cours des deux dernières années, j'ai eu l'occasion de participer et de coordonner une partie des recherches d'un projet de recherche européen qui s'appelle le projet EACH4, E-A-C-H-F-O-R, pour Environmental Change and Forced Migration Scenarios, donc changements environnementaux et scénarios de migration forcée. Le nom du projet n'a qu'une importance très limitée. Nous avons mené des études de cas dans 23 pays différents à partir de différents types de dégradation de l'environnement et que pour chacune de ces dégradations de l'environnement, nous avons essayé de voir comment les populations réagissaient, si elles migraient ou pas, dans l'hypothèse où elles migraient, de façon à avoir une série de données empiriques, sociologiques et anthropologiques par rapport à l'impact des dégradations de l'environnement sur les populations, en particulier dans leur comportement migratoire. Je ne veux pas donner une importance excessive à ce projet, mais étonnamment, ce projet est le tout premier du genre conduit à l'échelle mondiale. Avant ce projet EACH4, il n'y avait aucune donnée empirique sur la manière dont les gens bougeaient suite à des dégradations de l'environnement, et donc on ne pouvait qu'imaginer la façon dont ils bougeaient. Et vous allez voir que le projet livre une série d'enseignements intéressants. Le premier enseignement, c'est un enseignement auquel on s'attendait, c'est qu'il existe une relation positive entre les dégradations de l'environnement et les flux migratoires. En d'autres termes, dans la quasi-totalité des 23 cas observés, on a constaté qu'une dégradation de l'environnement s'accompagnait de migrations. Quelle que soit cette dégradation, que ce soit la hausse du niveau des mers, des inondations, des catastrophes, ou même d'ailleurs des dégradations de l'environnement qui n'avaient rien à voir avec le changement climatique. Par exemple, j'ai étudié la question des glissements de terrain et du stockage des déchets nucléaires au Kyrgyzstan. Ces questions de stockage non protégé de déchets nucléaires provoquent aussi des déplacements de population. Donc, toutes les dégradations de l'environnement, dans leur diversité, provoquent, à des degrés divers, des réactions migratoires. On constate aussi, et ça c'est un résultat auquel on s'attendait, c'est que plusieurs facteurs s'entremêlent et que donc il est très difficile d'isoler certains cas où les gens migrent uniquement pour des raisons environnementales. Très souvent, les gens migrent à la fois pour des raisons environnementales, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Et c'est aussi dû au fait que l'environnement n'est pas quelque chose de détaché d'un contexte socio-économique particulier, mais est profondément lié à un contexte socio-économique. J'ajoute aussi, et c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais que l'environnement est un terme, un concept profondément occidental. Quand nous interrogions des bergers au Ghana sur les raisons de leur migration, ils nous répondaient souvent Non, je ne suis pas parti pour des raisons environnementales, je suis parti parce qu'il n'y avait plus d'herbe pour faire brouter mes bêtes et parce que je n'avais plus d'eau pour leur donner à boire. Et vous leur dites, mais c'est donc un problème d'environnement, c'est un problème de dégradation des sols, un problème d'accès à l'eau. Et alors ils disent, non, c'est un problème économique, je ne pouvais plus vendre mes bêtes sur les marchés, donc je n'avais plus de revenus. Donc vous voyez que ce qu'on considère, nous, comme un problème environnemental pourrait être considéré par les migrants comme un problème économique. Puisque pour le berger, évidemment, la conséquence immédiate, c'est qu'il ne peut plus vendre ses bêtes sur les marchés et qu'il n'a donc plus de revenus. Pour les politiques publiques et pour les recherches académiques, la difficulté, évidemment, de cet entremêlement de facteurs est qu'il est relativement difficile de définir précisément les réfugiés climatiques ou les réfugiés environnementaux, si les gens se déplacent pour une série de raisons. Un élément important, néanmoins, c'est que ces facteurs environnementaux augmentent la contrainte à la migration. C'est-à-dire que toute une série de migrations qui se seraient effectuées sur une base volontaire s'effectue désormais sur une base contrainte. Les gens sont forcés de partir et n'ont plus d'autre choix à cause de la dégradation de leur environnement. Contrairement à un discours qui est souvent véhiculé dans les médias, la plupart de ces déplacements de population sont des déplacements à l'intérieur du même pays, et parfois même sur de très courtes distances. C'est dû à la fois au fait que la migration coûte très cher et que plus vous allez loin, plus ça coûte cher, et aussi au fait que les gens n'ont pas de raison particulière de quitter leur pays. Ils cherchent avant tout à quitter la région qui subit une dégradation environnementale, mais vont chercher à maintenir autant que possible leurs liens familiaux et sociaux. La conséquence politique de ceci, c'est que le poids, la charge des migrations repose pour l'instant quasiment exclusivement sur les épaules des pays qui sont touchés par les impacts du changement climatique. Et l'on sait que ces pays sont aussi ceux qui sont les moins responsables du changement climatique. Et donc là, nous avons une question de justice internationale et une question d'équité qui apparaît, puisque le poids de ces migrations est aujourd'hui supporté par les victimes et pas par les responsables. Et enfin, le dernier enseignement significatif du projet, c'est que les populations les plus vulnérables, comme je le disais tout à l'heure, sont souvent incapables de migrer. Ça veut dire que leur vie et leur santé sont directement exposées au danger des impacts du changement climatique, directement exposées aux dégradations et aux perturbations de l'environnement, et que donc un enjeu politique important, ça va être non pas d'essayer qu'il y ait le moins de gens possible qui migrent, mais ça va être bien souvent de permettre à davantage de gens de migrer. Et vous entendrez souvent dans la presse le chiffre de 200 millions de réfugiés environnementaux à l'horizon 2050, et on dit « oulala, ça fait beaucoup de gens ». C'est trop peu. Tous les gens qui ne migrent pas sont des gens qui sont directement en danger. Et donc un grand enjeu politique, ça va être de permettre aux populations les plus vulnérables de migrer de manière à ne plus être en danger par rapport aux impacts attendus du changement climatique. Et ça, c'est un élément extrêmement important sur lequel je tiens à insister. À partir de ces caractéristiques empiriques, on peut essayer de faire des prédictions et d'estimer combien de gens devraient migrer dans les 10, 20 ou 50 prochaines années. Alors la question de la prévision et de la prédiction se heurte à une quadruple difficulté. La première difficulté, c'est une difficulté prévisionnelle. Comme je l'ai dit, la science n'est pas encore capable aujourd'hui de prévoir précisément quels seront les impacts du changement climatique à l'échelon local ou régional. La deuxième difficulté est une difficulté définitionnelle. Comme je l'ai dit, en raison de tous les facteurs de migration, en réalité, en raison des différents types de migration qu'on peut mettre sous le vocable migration environnementale, il est relativement difficile de définir précisément qui sont ces gens. Si on prend une définition très large, vous pouvez mettre dans une même catégorie, regroupée sous un même terme, l'habitant des petites îles du Pacifique Sud qui fuit en Australie ou en Nouvelle-Zélande parce que l'eau monte et qu'il n'est plus possible de vivre. Vous pouvez mettre sous ce terme l'habitant de la Nouvelle-Orléans qui fuit à l'approche du cyclone Katrina et le couple de retraités anglais qui achètent une maison dans le sud de la France parce que le temps est pourri en Angleterre et qui veulent passer leur retraite sur la Riviera. Et donc si vous prenez une définition très large, vous avez évidemment des nombres très importants. Si vous prenez une définition plus restreinte, vous ne considérez que les gens qui sont forcés de partir sans quoi leur vie est mise en danger, vous avez évidemment des nombres qui sont beaucoup plus restreints. Et donc la question de la définition est importante, et ce n'est pas qu'une question académique, puisqu'elle détermine très largement quels seront les nombres, l'ampleur des flux migratoires auxquels on peut s'attendre. La troisième difficulté est d'ordre politique, puisque la nature et l'ampleur des flux à venir seront liées directement à ce que l'on va faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est les politiques d'atténuation, à ce que l'on va faire pour permettre aux populations touchées de s'adapter aux impacts du changement climatique, c'est les politiques d'adaptation, et aussi aux politiques migratoires qu'on va mettre en œuvre. Va-t-on encourager ou décourager la migration ? Et donc, en fonction des politiques qu'on va mettre en œuvre, à la fois dans le domaine du changement climatique, mais aussi des migrations, on aura plus ou moins de gens qui seront amenés à se déplacer. Et puis, enfin, il y a une difficulté sociologique ou anthropologique qui fait qu'aujourd'hui, on connaît encore relativement mal la manière dont les populations réagissent aux dégradations de l'environnement. Je vous ai dit que le projet EACH4 était le premier à avoir étudié cette question à l'échelon global. C'est le premier, mais c'est aussi un projet d'ampleur très limité. C'est un projet de 2 ans où on n'a pu faire que des études relativement superficielles avec un financement de 835 000 euros, ce qui est un financement relativement faible par rapport à d'autres projets de la Commission européenne sur ces sujets. Voilà, donc on espère que la science devra faire des progrès en ce qui concerne la prévision, la définition et l'étude des comportements de la population. Et puis évidemment, une grande partie dépendra également des politiques publiques qui seront mises en œuvre. Je voulais vous donner quelques exemples dont je voulais vous parler, c'est celui de Tuvalu. Tuvalu est un tout petit État dont vous avez peut-être entendu parler, qui symbolise un peu la question des réfugiés climatiques, puisque c'est un des premiers États qui pourrait être rayé de la carte en raison de la hausse du niveau des mers. Donc Tuvalu se décrit volontiers comme le premier pays touché par le phénomène des réfugiés climatiques. Si vous tracez une ligne droite entre Hawaï et Sydney, Tuvalu est à peu près au milieu de cette ligne. Alors Tuvalu, c'est un archipel de 9 îles, et sur ces 9 îles habitent un peu moins de 10 000 habitants. La moitié de ces habitants habitent sur l'île principale, l'île de Funafuti. Ça donne une densité de population assez impressionnante, puisqu'on est à 1610 habitants au kilomètre carré à Funafuti. D'accord ? En comparaison, la Belgique, c'est 300 habitants au kilomètre carré. C'est tout petit. L'ensemble du territoire de Tuvalu couvre 26 kilomètres carrés. L'île principale, Funafuti, sur laquelle habitent 4500 habitants, fait 12 kilomètres de long et 400 mètres de large. À certains endroits, l'île est tellement étroite qu'il n'y a place que pour la route principale. Et donc, à gauche, vous avez l'océan Pacifique et à droite, vous avez le lagon. Ça veut dire que l'île est extrêmement vulnérable à toute hausse du niveau des mers. Le point culminant des 9 îles, qui n'est même pas à Funafuti, est à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça veut donc dire que comme l'île est tout à fait plate et comme il n'y a pas de refuge véritablement à l'intérieur des terres, ça veut dire que toute augmentation du niveau de la mer, évidemment, pose un très très gros problème à la population. J'ajoute qu'en plus de cette énorme vulnérabilité à la hausse du niveau des mers, il y a d'autres dégradations de l'environnement qui sont imputables à l'homme à Tuvalu. Par exemple, on a construit sur l'île principale une piste d'atterrissage pour les avions qu'on a construite durant la Seconde Guerre mondiale. Cette piste d'atterrissage occupe un tiers du territoire de l'île. D'accord ? Et évidemment, le problème, c'est qu'il a fallu aller chercher des terres aux deux bouts de l'île et que ça fragilise, évidemment, le sol de l'île. Et évidemment, c'est en plus une piste qui est utilisée non seulement pour faire atterrir des avions, mais également pour organiser des matchs de football, pour faire gambader les cochons et pour dormir. D'accord ? Et donc, c'est assez cocasse. Dès que vous avez un avion qui approche, vous avez une sirène qui retentit et tout le monde doit évacuer la piste. Alors j'ai assisté plusieurs fois à des atterrissages avortés où le pilote se rend compte au dernier moment qu'il reste des animaux sur la piste et doit donc remettre des gaz, refaire un tour en attendant qu'on ait fait dégager les cochons et les chiens. Un autre élément important, c'est que Tuvalu ne possède aucune ressource économique. À part des timbres-poste de collection, ils ne vendent rien. Ça veut dire que l'économie du pays dépend exclusivement à 80% de l'aide internationale. Tuvalu déploie des stratégies assez intelligentes pour recevoir de l'aide internationale. Par exemple, ils ont eu l'idée de reconnaître Taïwan comme État indépendant. En échange de cette reconnaissance, il n'y a que 26 pays au monde qui ont reconnu Taïwan comme État indépendant, Taïwan leur a envoyé un ambassadeur et leur envoie régulièrement du riz. Et dès que Tuvalu a besoin de quelque chose, Taïwan est là pour fournir l'aide demandée en échange d'un vote aux Nations Unies. Le Japon fournit également une aide substantielle, puisque Tuvalu est un des rares pays à voter contre les moratoires sur la chasse à la baleine. Et en échange de ce vote prostitué, le Japon sait se montrer reconnaissant. Tuvalu tire également à peu près 15% de ses revenus grâce à la vente du suffixe internet .tv. Chaque pays a un suffixe internet, la Belgique a .be, la France .fr, le Royaume-Uni .uk. Tuvalu a hérité du .tv puisque la Turquie et la Tunisie étaient passées avant pour prendre le .tu. Et donc, les autorités de Tuvalu ont rapidement compris qu'ils pouvaient vendre ce .tv à toutes les compagnies actives dans les métiers liés à la télévision. Et que donc, dès que vous allez sur un site internet qui se termine par .tv, c'est de l'argent qui tombe dans la poche de Tuvalu. Et puis finalement, une petite partie de leur économie provient du téléphone rose, puisque Tuvalu s'est fait attribuer beaucoup plus de numéros de téléphone que ceux dont il a besoin, et a donc eu l'idée de revendre les numéros de téléphone dont il n'avait pas besoin à des opérateurs de téléphone rose. Et donc, si l'envie vous prend et si vous vous sentez seul un soir d'appeler le téléphone rose, sachez que c'est des revenus qui retourneront en partie à Tuvalu. Ceci pour dire que l'économie de l'État est intrinsèquement liée non pas à une activité économique réelle, mais à son existence en tant qu'État indépendant. Ce qui veut dire que si l'État venait à disparaître, eh bien toutes ses sources de revenus disparaîtraient également. Et donc, le maintien de Tuvalu en tant qu'État indépendant, le maintien du siège aux Nations Unies, par exemple, est extrêmement important pour le gouvernement de Tuvalu. Alors, les effets du changement climatique sont déjà ressentis à Tuvalu, et par exemple, un des effets les plus importants, c'est ce qu'on appelle le phénomène des king tides, ou des marées géantes. Chaque année, au mois de février-mars, l'ensemble de l'île est recouverte de 50 ou 60 cm d'eau. Et contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas des grosses vagues qui s'abattent sur l'île, mais c'est de l'eau qui pénètre par le sol de l'île. C'est-à-dire que le sol de l'île est comme une sorte d'éponge et que parfois la capacité d'absorption de l'éponge est dépassée et que donc vous marchez et vous voyez des petites flaques d'eau se former à vos pieds, des sortes de mini-geysers, et ces petites flaques deviennent des petites mares et finalement, toute l'île est recouverte de 50 ou 60 cm d'eau pendant 10 ou 15 jours chaque année. Ça fait évidemment le bonheur des enfants qui peuvent barboter dans l'eau, mais ça nourrit aussi les craintes des adultes qui craignent que potentiellement cette situation qu'ils connaissent 10 ou 15 jours par an, ils ne la connaissent 365 jours par an et que donc ça ne devienne invivable. On a déjà, en provenance de Tuvalu, une série de flux migratoires internes, donc des îles extérieures vers l'île principale, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, on a aujourd'hui à peu près 3000 Tuvaléens qui habitent dans la banlieue d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Cette migration est rendue possible grâce à des accords de migration qui sont en réalité des accords de migration pour le travail. La Nouvelle-Zélande cherche de la main-d'œuvre pour soutenir sa croissance économique et donc accepte la migration des Tuvaléens. Une grande partie de ces migrants, en tout cas la plupart de ceux que j'ai pu interroger, sont partis pour des raisons diverses. Je vous souviens que les facteurs sont intermêlés, à la fois pour des raisons familiales, pour des raisons économiques, mais pour beaucoup surtout par crainte de ce qui allait arriver à Tuvalu. Et donc l'incertitude sur le futur de Tuvalu, sur leur capacité à vieillir et à mourir à Tuvalu, à y élever leurs enfants, est un facteur décisif dans la décision de migrer. Et aujourd'hui, le gouvernement de Tuvalu ne sait pas encore s'il pourra s'adapter à la hausse du niveau des mers ou s'il va devoir faire évacuer l'ensemble de la population. Et cette incertitude vraiment joue un rôle très important dans la décision migratoire de la plupart des gens. Deuxième exemple que j'ai étudié plus en détail, c'est celui de l'ouragan Katrina. Alors, que dire sur Katrina que vous ne sachiez déjà ? C'est évidemment un exemple très différent, puisqu'on ici, on est face à une catastrophe naturelle brutale et donc à une fuite précipitée. On n'a pas du tout un départ organisé et préparé, comme c'est le cas à Tuvalu. Donc Katrina provoque à peu près 2000 morts, ce qui, vu l'ampleur de la catastrophe et de la dévastation, reste un nombre de victimes relativement limité par rapport à ce que l'on pouvait craindre. Les trois quarts des maisons de la Nouvelle-Orléans sont complètement détruites. et on doit évacuer 1 200 000 personnes. Comme je le disais en commençant l'exposé, Katrina est donc le plus grand flux migratoire interne qu'aient jamais connu les États-Unis. Katrina nous fait réaliser que les pays industrialisés sont relativement peu préparés encore à gérer des catastrophes de cette ampleur. Et le grand problème de Katrina, c'est celui qu'on a vu à satiété sur les écrans de télévision, c'est le fait que même si 85% de la population de la ville a évacué dans un délai record, 15% sont restés coincés en ville, c'est-à-dire à peu près 60 000 personnes. Ces 60 000 personnes faisaient partie des couches de la population qui étaient les plus vulnérables. Ils étaient tous pauvres, ou malades, ou vieux, ou handicapés, ou souvent les quatre à la fois. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis ? Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. On a beaucoup dit, on a beaucoup raconté qu'ils ne sont pas partis parce qu'ils n'avaient pas de voiture et que les autorités avaient oublié d'organiser des évacuations collectives en bus ou en train. Ce n'est pas vrai. Une bonne partie des gens qui ne sont pas partis avaient une voiture, mais pas d'essence. Et un des drames de Katrina qui n'a pas été raconté, c'est que l'ouragan s'est produit un 29 août plutôt qu'un 2 septembre. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que le 29 août, les salaires n'avaient pas encore été payés. Et que donc pour les familles les plus pauvres qui n'avaient pas d'économie, les comptes en banque étaient à sec ou à découvert. Or, même évacué pour quelques jours, ça coûte cher. Il faut remplir le réservoir de la voiture. Il faut acheter un peu de vivres, un peu de nourriture, quelques vêtements, etc. Il faut surtout quand on n'a pas d'amis hors de la ville, ce qui était souvent le cas des populations les plus pauvres, il faut payer des nuits d'hôtel ou des nuits de motel. À l'approche de Katrina, les hôteliers ont rapidement compris qu'ils allaient faire de bonnes affaires. Et donc les prix de la nuit d'hôtel ces jours-là, même dans le motel le plus pourri en bord d'autoroute, il était impossible de trouver la moindre chambre à moins de $200 la nuit. Quand vous avez une famille de 2 ou 3 enfants et que vous devez évacuer pour 3 ou 4 jours, que vous sachez que chaque nuit va vous coûter au moins $400 et que vous n'avez plus d'argent, vous y réfléchissez 2 fois avant de claquer sur un week-end 2 mois de salaire. Et donc, si beaucoup des gens de Katrina ne sont pas partis, c'est aussi simplement parce qu'ils n'avaient plus d'argent, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'évacuer. Ça peut être un manque de capital économique, c'est parfois aussi un manque de capital social. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, voilà, j'avais une voiture, mais je ne savais pas où aller. Je n'ai jamais pris l'autoroute, j'avais peur de prendre l'autoroute, je ne sais pas comment on roule sur une autoroute. Et donc, comme je ne savais pas où aller, comme je ne connaissais pas les directions, comme je n'avais pas d'informations sur où aller, j'ai préféré rester. Et donc, il y a aussi ce capital social qui fait que les gens peuvent s'orienter et entrevoir ce qu'il y a au-delà de leur quartier ou au-delà de leur ville. Et parfois, pour les populations les plus pauvres, ce capital social manque. Et donc, ces 60 000 personnes sont restées prisonnières des eaux. Et il faut évidemment réaliser ce que c'était. Ce n'était pas une petite inondation. Il y avait 3 mètres d'eau dans toute la ville. Ça veut dire que les gens étaient coincés dans leur grenier ou sur leur toit, qu'il a fallu 4 jours avant que les secours n'arrivent, et qu'entre-temps, ces gens n'avaient ni eau, ni nourriture, ni électricité, ni soins médicaux, que l'eau elle-même était dangereuse parce qu'il y avait été déversé toute une série de produits toxiques, ainsi que toute une série d'animaux venimeux, serpents et alligators qui s'étaient échappés des bayous. Ajoutez à ça ce qu'on n'a pas vu à la télévision, c'est la température qui tournait autour de 41-42 degrés Celsius. Et pour vous dire l'état dans lequel étaient ces gens quand les secours sont arrivés, j'ai rencontré des secouristes, et je me souviens en particulier du témoignage d'une infirmière de la Croix-Rouge, qui me dit « Le plus grand drame professionnel de toute ma carrière, c'est le moment où je suis enfin arrivé à la Nouvelle-Orléans, où toute ma carrière, on m'avait formé pour intervenir dans ce type de situation d'urgence, où je savais exactement les actes qu'il fallait poser, où je savais exactement comment secourir ces gens, et où quand je m'approchais d'eux, ces gens puaient tellement que je ne pouvais pas me retenir de vomir. » Et donc ces secouristes, pour vous dire l'état dans lequel étaient les gens quand ils sont arrivés, étaient parfois physiquement incapables de les approcher, tellement l'odeur de ces 4 jours passés dans cette atmosphère humide, dans cette eau putride et dans cette température suffocante était terrible. C'est dire donc l'importance qu'il y a à permettre l'évacuation et la migration des populations les plus vulnérables dans des situations de catastrophe ou de dégradation de l'environnement. L'autre enseignement de Katrina, c'est que ces déplacements ne sont pas que des déplacements temporaires. Les catastrophes naturelles peuvent aussi provoquer des déplacements permanents de population, et la carte vous montre où se trouve désormais le tiers des habitants qui n'est jamais revenu à la Nouvelle-Orléans et ne reviendra sans doute jamais. Il y en a beaucoup qui sont autour de la Nouvelle-Orléans, à Baton Rouge ou à Houston, mais certains beaucoup plus loin, à Boston, à New York, en Californie et même jusqu'à Salt Lake City dans l'Utah. Ce qui est assez intéressant et extrêmement problématique, c'est que la plupart de ces 60 000 personnes qui ont finalement pu être évacuées au bout de 4 jours n'ont généralement pas pu choisir l'endroit où elles allaient être évacuées. C'est-à-dire qu'on leur a dit « vous montez dans cet avion, vous montez dans le bus » et que souvent ils n'apprenaient la destination de l'avion qu'une fois l'avion en l'air. Et donc les gens ont été parqués dans les bus ou dans les avions en fonction des villes et des États qui voulaient bien accueillir des déplacés, mais n'ont eu aucun choix quant à leur destination. Ce qui veut dire pour ceux qui ne sont pas revenus que c'est l'État qui a choisi pour eux, de façon dans l'urgence et sans la considération d'aucun critère, qui ont choisi où ils allaient refaire leur vie. J'ai rencontré des gens qui, par exemple, avaient été tout à fait traumatisés par leur évacuation à Salt Lake City. Il est difficile de trouver deux villes aux mentalités plus opposées que Salt Lake City et la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans a tendance à être relativement tolérante quant à l'alcool et à la nudité en rue. À Salt Lake City, ça passe beaucoup moins bien. Enfin, troisième et dernier exemple que je voulais mentionner, c'est le cas qu'on mentionne souvent du Bangladesh. Bangladesh qui est pris en tenaille à la fois parce que les glaciers de l'Himalaya fondent et provoquent des inondations dans le nord et parce que le niveau de l'eau monte et que le sud est victime d'inondations régulières dans les deltas ainsi que de phénomènes extrêmes comme des ouragans, enfin des cyclones plutôt comme on les appelle dans la région. Ça provoque deux types de migrations différentes. Dans le nord, les inondations et l'érosion des berges des fleuves provoquent des migrations de faible distance. C'est-à-dire que les gens, généralement, habitent sur des chars, qui sont des sortes d'îles de sable dans le lit des fleuves. Et ces chars disparaissent et réapparaissent sous l'effet des crues des fleuves. Et alors qu'auparavant, les gens pouvaient relativement prévoir la crue et planifier leur migration qui arrivait une ou deux fois par an, la migration maintenant devient incessante parce que la crue du fleuve devient également incessante. Et donc, il y a des migrations de chars en chars. Et pour ceux qui sont les plus vulnérables, ils deviennent souvent la proie de réseaux de travail ou de prostitution forcée vers l'Inde. Et dans le sud, par contre, les flux migratoires s'opèrent plus généralement vers les centres urbains, où là, les migrants s'entassent dans des bidonvilles en bordure des grands centres. Et donc, évidemment, le problème, c'est que le Bangladesh est déjà un pays extrêmement densément peuplé, où il n'y a pas vraiment d'endroit pour assurer un refuge sûr à la population, et que les possibilités de migration à l'international sont très limitées, puisque du côté de l'Inde, l'Inde est en train de construire une clôture électrifiée à sa frontière avec le Bangladesh pour être sûr que les migrations ne soient pas trop importantes vers l'Inde, et que de l'autre côté, il y a possibilité de s'enfuir en Birmanie, qui, comme on le sait, est le régime le plus accueillant du monde.
Cet enregistrement ponctue la première partie de la conférence que donnait François Guemaine. Il est suivi d'un second podcast téléchargeable à la même adresse.